Et aujourd'hui, sur les ondes de Medi 1, on parle d'angoisse post-Covid-19. Alors à savoir qu'un patient sur trois souffrirait d'anxiété dans les 6 mois suivant l'infection due au Covid-19. On fait donc un zoom sur ce mal-être post-maladie avec Dr Othmane Lorabi, comme tous les jeudis matins. Il est avec nous depuis Casablanca. Merci beaucoup docteur de répondre présent une nouvelle fois à cette invitation sur Medi 1.
Merci à vous pour l'invitation. Et toujours ravi d'être au rendez-vous.
Merci. Alors d'abord, comment peut-on définir l'angoisse et est-ce qu'il en existe plusieurs types ?
Alors, quand on va parler de troubles anxieux de manière plus générale, les troubles anxieux se définissent par la manifestation de symptômes physiques et psychiques qui sont liés à une peur exagérée eu égard de la situation qu'on est en train de confronter ou quelquefois même sans qu'il y ait de situation. C'est ce qui définit les troubles anxieux. Donc, ça va être des troubles qui vont se manifester par des réactions de peur, entre guillemets, la peur étant médiée par l'adrénaline, etc. Donc, quand je dis la peur, c'est pour faire référence à toutes les sensations que nous tous, on connaît quand on a peur et quand on identifie qu'on a peur, c'est-à-dire le cœur qui bat vite, les petits tremblements, le fait de sentir qu'il va arriver un problème tout de suite, le fait d'avoir des sueurs, etc. Donc, c'est ça la définition au sens très large du terme des troubles anxieux. Et bien sûr, après, il y a une subdivision en fonction de quand est-ce que se manifestent ces troubles anxieux. On va parler de phobie, ce qu'on appelle les phobies simples, c'est-à-dire quand il y a une anxiété ou une peur exagérée qui va apparaître devant un stimulus qui est ou une situation qui est habituellement non pourvoyeuse de peur. On peut parler de troubles anxiété sociale, c'est le fait d'éprouver cette peur quand on est dans une situation où on va être jugé par autrui. Il y a aussi les troubles hypochondriaques, c'est l'anxiété sur la santé, c'est-à-dire oui. Que avoir des préoccupations excessives vis-à-vis de sa santé, etc.
On en parlait exactement il y a quelques mois dans cette émission.
Donc, c'est ça, les troubles anxieux, la grande famille des troubles anxieux. Il y a le trouble anxieux généralisé, c'est peut-être le plus fréquent, ou en tout cas celui le plus connu, où on va se faire du souci excessif pour à peu près tout. Donc, voilà, je vous ai un peu donné l'image assez grossière des troubles anxieux. Et pour apporter juste une toute petite précision à votre introduction, c'est vrai qu'en post-Covid, il y a 35 à 40% de personnes qui vont développer des troubles anxieux, mais pas que. C'est-à-dire, il y a des troubles mentaux, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être un trouble dépressif, etc. Et c'est vrai que cette association de la Covid avec les troubles mentaux est de plus en plus, documentée et peut s'expliquer sous différents angles. Mmh. Alors, il y a bien sûr le premier angle dont on va parler, c'est ce qu'on peut tous imaginer, c'est-à-dire que ça fait à peu près 2 ans qu'on vit avec quotidiennement des informations qui sont liées au nombre de personnes qui sont malades, des informations qui sont liées au nombre de personnes
décès,
qui décèdent,
oui.
Absolument, surtout. Mm-hmm. Et c'est cette association dans notre tête maladie et décès avec la Covid qui va, si vous voulez, allumer le petit voyant rouge qui va nous mettre en alerte. Ouais. En alerte déjà avant d'avoir la Covid, parce qu'il y a une distanciation sociale, beaucoup de choses et toutes les précautions, mais aussi qui va nous mettre en alerte quand on va avoir la maladie de la Covid. À savoir qu'on va se poser des questions sur est-ce que notre état de santé va empirer. On va faire le focus énormément sur toutes nos sensations physiques tant qu'on est malade. Parce qu'on
que va-t-il m'arriver dans les absolument. Prochaines minutes? Ouais.
Voilà, on guette l'aggravation, on guette le danger. Ça, c'est clair et net. Et si vous voulez, le fait de vivre ça, a fortiori, s'il y a eu des symptômes physiques, un type d'oppression, le souffle, le manque d'oxygène, etc., on va associer forcément cette période à une peur, à des menaces, à un danger. Et ce, d'autant plus que quand on va parler de Covid et de personnes qui ont eu la Covid, on va parler de personnes qui sont forcément soit en isolement, qui vont s'auto-isoler, soit de personnes qui vont être hospitalisées quand le cas est un peu plus préoccupant. Et là, c'est une autre dimension, je pense, qui peut aussi expliquer le fait qu'il y ait des troubles anxieux, c'est le fait qu'il y a une rupture du lien social. Hein, à partir du moment où on va être isolé, même à domicile, ou placé en hospitalisation, et quand on parle d'hospitalisation aussi pour la Covid, il y a une certaine quarantaine, entre guillemets, il n'y a pas les visites, on ne voit pas les membres de la famille, donc il y a une rupture de ce lien social qui va faire qu'on va vivre la chose de manière encore plus péjorative hein, que simplement le fait d'être inquiet à propos de sa santé et du risque de complications et de mort. Ça, c'est le grand côté. Il faut savoir aussi, la deuxième chose, un petit rappel de la biologie, la Covid est une maladie, on le sait de plus en plus, qui est une maladie inflammatoire qui va intéresser tous les organes du corps. Et ça fait plusieurs années déjà qu'en psychiatrie, nous parlons de ce qu'on appelle de théorie inflammatoire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on a observé avec un fort degré de preuve, un fort niveau de preuve, que tous les troubles mentaux, quasiment, sont associés à une inflammation qui est qu'on voit au niveau du cerveau, hein, au niveau des structures cérébrales. Alors bien sûr, ça dépend du type de maladie, que sont les zones qui vont être le siège de l'inflammation. Et ça, c'est juste pour rendre compte que quand on a un trouble mental, même un trouble anxieux, et bien c'est forcément associé à un état inflammatoire au niveau cérébral. Et ce même état inflammatoire, ben on sait aujourd'hui qu'il est très très largement favorisé et aggravé par la maladie de la Covid-19, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas que tous les troubles psychiatriques sont causés par une inflammation au niveau du cerveau, loin de là. Je dis juste que, justement, et c'est ça la théorie inflammatoire, elle dit que quand il y a des troubles psychiatriques, de manière concomitante, il y a une inflammation au niveau cérébral. Donc, ça peut expliquer un petit peu ce fort taux d'apparition de troubles mentaux chez les personnes dans les suites de la Covid.
Hein,
mais je veux vraiment mettre l'accent, moi, pour moi, à mon sens, sur probablement beaucoup plus la rupture du lien social et le contexte, le battage médiatique, le fait de se dire qu'on va probablement mourir. C'est ce qu'on se dit, vraiment vrai, mais qu'on se dise qu'on va probablement mourir, qui va expliquer plus spécifiquement, en fait, les troubles anxieux, et ce, d'autant plus qu'il peut y avoir des symptômes physiques qui persistent bien au-delà, bien après la guérison. Quand on est déclaré guéri de Covid, il peut y avoir encore des céphalées, des petites choses comme ça.
Ouais.
Et donc, ce sont des symptômes qui vont être toujours scrutés. La personne va toujours être à l'écoute de son corps et de ces symptômes-là. Mmh. Et malheureusement, aura tendance à les interpréter d'un côté plutôt péjoratif, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de grave, je m'en sors pas, je vais jamais m'en sortir, peut-être qu'il y a autre chose. Ce genre d'idées qui sont pour d'un fort niveau de tension et d'anxiété.
Alors les conséquences psychiques, est-ce qu'elles sont les mêmes quand on parle d'hommes, de femmes ou d'enfants, ou est-ce que chacun le vit différemment?
Alors les conséquences, je dirais la conséquence principale, c'est la souffrance, n'est-ce pas, hein, quand on parle au niveau psychique, c'est le fait de se sentir en souffrance pour l'accomplissement de tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Après, en termes de symptomatologie, ça peut être extrêmement différent d'une personne à une autre. Quand on parle de troubles anxieux, il y a deux grands types de symptômes. Il y a ce qu'on appelle les symptômes psychiques, c'est-à-dire le fait d'avoir la tête qui est préoccupée, de se faire du souci, d'être dans la rumination anxieuse, de se passer dans mentalement les images de telle ou telle action, telle ou telle parole qu'on intègre de manière négative et de manière dangereuse. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes psychiques. Et cette impression qu'il va arriver une catastrophe, mais il y a aussi des symptômes physiques. Les symptômes physiques, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de peur, pour qu'on arrive un petit peu à visualiser ces symptômes physiques, parce que ça peut se manifester exclusivement par des symptômes physiques. Justement, c'est là qu'on va parler d'angoisse, c'est les douleurs abdominales, c'est les gènes thoraciques, c'est l'impression de souffle court, c'est c'est les maux de tête quelquefois, des fois c'est les vertiges, c'est les nausées. On peut avoir aussi des manifestations ORL, des vertiges, des acouphènes. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de symptômes physiques qui peuvent apparaître. Et ce qu'on remarque par rapport aux hommes, femmes et enfants, bon, grosso modo, j'aurais tendance à dire que chez les adultes, il n'y a pas de, il n'y a pas de différence en fonction du genre, hein, mais ce qu'on va observer plus chez l'enfant par rapport aux adultes, c'est qu'il y a davantage de symptômes physiques et moins de symptômes, je dirais, psychiques. D'accord. Mais c'est peut-être dû au fait que l'enfant ou les enfants de manière générale ne vont pas expliciter ou exprimer ce qui se passe d'un point de vue juste mental pendant ces périodes d'anxiété, justement.
Qu'en est-il de la prise en charge qui aide donc à faire face à ces peurs ? À quel moment devrait-on y avoir recours ?
Alors, la prise en charge, elle va s'appuyer principalement sur de la psychothérapie. Quand on parle de troubles anxieux, à moins d'avoir des comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a une dépression qui s'installe ou des choses un peu plus sérieuses, les troubles anxieux, à mon sens, le traitement de choix, c'est la psychothérapie, et il vaut mieux éviter les sédatifs et les anxiolytiques parce que c'est juste une solution entre guillemets, parce que ça n'en est pas, juste une solution d'attente et un petit peu artificielle, et il y a en plus un risque d'abus et de dépendance quand on s'installe dans la consommation de ce genre de médicaments. Mmh. Et la thérapie, elle va, grosso modo, les axes de travail, c'est que il faut travailler la perception des risques de manière générale, et puis travailler sur notre capacité à faire face aux différents risques, aux différents dangers de la vie quotidienne. Parce que c'est ça le trouble anxieux. Un trouble anxieux va impacter notre capacité à gérer les risques, quels qu'ils soient. Voilà, ça, c'est clair et net. Et le fait de rediscuter autour de la mort, parce que quand on parle de Covid, forcément, il y a la notion de mort qui va survenir. Quand on reparle des dangers, quand on reparle, quelquefois, les personnes ont vécu un véritable traumatisme pendant leur hospitalisation. Je pense notamment aux personnes qui sont retrouvées dans des unités de réanimation où elles ont eu à voir des personnes qui décèdent à côté. Là, on est véritablement dans le psychotraumatisme. Là aussi, il faut une prise en charge qui va être axée sur le psychotraumatisme. Le plus souvent, une thérapie sur quelques mois va permettre d'en revenir. Et surtout que les statistiques que vous avez citées, de 35 à 40%, c'est des statistiques sur des personnes qui ont eu un diagnostic de trouble mental en premier diagnostic. Ce qu'on appelle premier diagnostic, c'est-à-dire sans aucun antécédent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de terrain antérieur justement à ce qui se passe actuellement. Donc c'est très important d'aller en thérapie, de pas se contenter de la prise en charge médicamenteuse, et aussi c'est très important qu'il y ait une vraie prise en charge des symptômes physiques qui peuvent être un peu les séquelles de la Covid, parce que ces symptômes physiques peuvent, par un effet de recrutement ou un effet de cascade, déclencher des crises d'angoisse ou même quelquefois de véritables attaques de panique.
Alors, quelques petits conseils à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Ils sont très nombreux à nous écouter ce matin encore. Alors, des conseils d'un psychiatre, donc, afin de, puisqu'on y est encore, faut le rappeler, pandémie, cette phase qui est très, très difficile à vivre pour certains, beaucoup plus que pour d'autres. Que diriez-vous à toutes ces personnes ?
J'ai envie de dire que, par rapport à la Covid, certes, on doit maintenir toutes les mesures nécessaires qui sont de bon sens, de distanciation, etc. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une maladie qui, finalement, a une faible létalité. Ça, c'est par rapport au risque fatal, quand on est malade. Il ne faut pas négliger, moi, le conseil que j'ai, c'est qu'il ne faut pas négliger cette angoisse ou ces troubles anxieux qui peuvent être des séquelles. Il ne faut pas les négliger parce que la plupart des gens arrivent à vivre leur vie plus ou moins correctement malgré la présence de ces symptômes. Il faut pas les banaliser parce que le vrai risque de ces symptômes, c'est pas le trouble anxieux en soi, mais c'est le fait que ça s'aggrave, comme je le disais, vers des dépressions ou vers des manifestations beaucoup plus bruyantes que juste une simple petite crise d'angoisse ou une simple petite sensation d'angoisse permanente. C'est les attaques de panique, c'est le trouble panique, donc, il faut en parler au médecin référent, c'est-à-dire la plupart du temps, ça va être le généraliste, qui peut mettre en place certaines stratégies médicamenteuses et thérapeutiques pour avoir une vraie solution. Et sinon, le cas échéant, ne pas hésiter à s'orienter vers un spécialiste pour une prise en charge un peu plus globale de ces troubles.
Parfait. Docteur Atman Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie à Casablanca. Vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Merci beaucoup d'avoir répondu
à toutes nos
questions sur Médien. Et c'est un entretien réécoutable sur notre site Médien.com.